Du pré ensoleillé, allons dans la sombre forêt. Cédric Dorier, Denis Lavallou, vous présentez Hänsel et Gretel au Petit Théâtre de Lausanne jusqu'au 31 décembre. Je rappelle en deux mots un peu les tenants et aboutissants de ce classique. Deux enfants, Hänsel, le garçon, Gretel, la fille, sont abandonnés dans les bois par leurs parents qui n'ont plus de quoi les entretenir. Au milieu de la forêt, ils rencontrent une sorcière qui est dans une maison en pain d'épices. Ou en biscuits, selon les sources. Cette sorcière très myope est aussi ogresse. Elle les capture, prend Gretel à son service comme femme de ménage, engraisse Hänsel pour le dévorer. Par ruse, les enfants vont parvenir à s'échapper, tuent la sorcière en la poussant dans son fourneau, lui volent ses trésors et retrouvent la maison de leur père, désormais veuf, grâce à l'aide d'un petit canard qui les aide à passer la rivière. Tout est bien qui finit bien. Ce célèbre conte des frères Grimm, collecté dans le Land de Hesse et publié en 1812, est probablement inspiré du Petit Poucet, collecté en France par Perrault et publié en 1697 déjà, voire même on a trouvé les traces d'un conte napolitain narrant les mésaventures de deux enfants abandonnés, Nenillo et Nenella de Giambattista Vasile, un conte rassemblé par le recueil Pentamerone qui date lui de 1635. Et certains, tenez-vous bien, font remonter l'origine du conte à l'Odyssée d'Ulysse, le piège de la nourriture exposée afin de capturer des beefsteaks humains étant l'œuvre du cyclope Polyphème qui sera aveuglé à coups de pied par Ulysse et dès lors aussi myope que la fameuse sorcière des frères Grimm. Cédric Dorier, Denis Lavallou, ce conte archaïque et sanglant, vous avez décidé de le réécrire même complètement. Pourquoi ? Dites-moi. Qui prend la... Peut-être vous, Denis Lavallou, qui êtes l'écrivain de la pièce.
Bon, alors, effectivement, heureusement que je ne connaissais pas tout ça, parce que sinon, ça m'aurait coincé. Non, c'est certain que j'ai eu, dès le départ, quand Cédric m'a proposé cette commande d'écriture, puisque c'en est une, un rapport un peu conflictuel avec ce conte-là, que je trouvais particulièrement sordide, sanglant, pour ne pas dire immoral, et... avec les contraintes qu'il m'a proposées, je l'ai averti dès le départ que probablement ça allait quand même changer, cette histoire-là. On s'est questionné beaucoup sur quel était l'objectif profond du conte. On est reparti à notre Bruno Bettelheim de service, puis qui analyse des contes de fées, pour savoir exactement si on se trompait complètement ou si on était quand même dans le même champ d'investigation. Effectivement, ce conte qui est d'abord et avant tout un conte initiatique, un conte qui permet à des enfants de passer, non point à l'âge adulte encore, mais en tout cas de devenir un petit peu plus autonome. Et c'est ça que, dans le fond de l'histoire, on a conservé, cette évolution-là, ce conte initiatique dans la forme. Et puis, du côté des personnages, il y avait quelque chose qui nous importait beaucoup, c'est de les rendre un petit peu plus humains qu'ils ne le sont dans l'histoire. Et aussi enfin, parce que pour moi, il y en a vraiment pas un pour acheter l'autre. D'une certaine manière, ils ont tous leur part de lumière et d'ombre, comme tous les êtres humains. Et puis, c'était ça qui nous intéressait. Particulièrement pour cette sorcière qu'on voulait pas rendre sorcière méchante, infernale, insupportable, horrible, etc., comme c'est l'habitude dans tous ces contes de fées. Donc, au contraire, on en a fait un personnage extrêmement généreux physiquement, déjà, pour commencer, puisqu'elle mange des enfants et qu'apparemment, elle en mange beaucoup.
Et beaucoup de gâteaux également.
Ah ben, les gâteaux, c'est pas son fort, c'est simplement un appât, hein, vraiment. Ah. C'est comme elle le dit dans une des chansons, d'ailleurs, elle préfère la chair humaine, mais voilà. Et c'est sans haine, comme elle le dit aussi, parce que c'est simplement son régime alimentaire, comme... Toutes sortes de personnes ont toutes sortes de régimes alimentaires différents. Voilà.
Vous parlez de contraintes. Cédric Dorier, quelles ont été les contraintes que vous avez données à Denis Lavallou pour la réécriture de cette pièce?
Alors, les contraintes, il y en avait quelques-unes. C'était, je connaissais l'écriture de Denis, qui est une écriture musicale. C'était de permettre aux acteurs et à la pièce, à l'histoire racontée, que ça soit vraiment un jeu très ludique, très concret, et qu'on puisse passer de la parole parlée à la parole chantée de manière très très simple, fluide et souple. Donc Denis a dû écrire vraiment des petites comptines qui ponctuaient le texte parlé. Ça, c'était une contrainte. Il y avait la contrainte justement de rendre les personnages plus ambigus. Il n'y a pas les gentils, il n'y a pas les méchants, comme il vient de le dire. Et puis, une contrainte aussi, puisque une des portes d'entrée de cette nouvelle version que nous proposons, c'est vraiment pour moi, en tout cas, l'opéra de Humperdinck, Hänsel et Gretel, que j'aime beaucoup. Et dans cet opéra, dans cette version-là, il y a la présence d'un marchand de sable. Et je trouvais que cette figure, encore aujourd'hui, moi, m'a parlé en étant enfant, et je pense tout à fait qu'aujourd'hui, c'est une figure importante. Et donc, j'ai proposé à Denis d'écrire un petit personnage qui allait remplacer, en fait, le canard.
Alors, paroles, musique, rite, je vous propose avant de poursuivre un extrait de la pièce qu'on entend, que j'avais enregistré au Petit Théâtre de Lausanne. Hansel et Gretel qui partent dans la forêt avec leurs parents qui vont les perdre. Dites-moi, Denis Lavallou, vous me disiez que le conte de Grimm original vous semblait immoral. Alors en quoi cette nouvelle version du conte est-elle morale et en quoi l'ancienne était immorale?
Alors en fait, je ne sais pas si elle est plus morale que l'autre. Mais
est-ce que vous avez censuré les frères Grimm?
Oui, absolument. Il y a moins de dommages collatéraux et il n'y a surtout pas de mort. J'ai trouvé à peu près inutile et même, encore une fois, très barbare de précipiter une femme, fut-elle sorcière, dans un four crématoire, de lui voler tous ses biens et de ramener ça à la maison. Il me semblait qu'on n'avait pas besoin de ça pour raconter ce que le conte devait raconter. Donc j'ai évité ce genre de traitement.
Marc, vous voulez intervenir?
Oui, il n'y a pas de mort, mais n'empêche que la sorcière mange des petits-enfants, c'est son régime alimentaire, non?
Oui, c'est son régime alimentaire. On la voit pas manger, puisque de toute manière, elle suit une cure. Il faudrait peut-être pas que je le dise. Elle a mangé des enfants, elle ne mangera plus
d'enfants. Il y aura un tabou sur cette émission, on ne parle pas de la fin de la pièce, voilà, s'il vous plaît, car il y a une chute.
C'est le régime alimentaire, on peut en parler.
C'est plus moral parce qu'il y a un pardon donc, qui est introduit, c'est ça?
C'est-à-dire que c'est même pas ça, c'est qu'il y a une ambiguïté totale sur la véracité de l'histoire, et je n'irai pas plus loin que ça. C'est simplement que, est-ce que tout cela existe ou pas, on n'en sait rien.
Donc, ce qui est sûr, c'est que vos enfants, si je puis m'exprimer ainsi, sont moins ambivalents probablement que chez Grimm, où effectivement ils commettent un meurtre, celui de la sorcière, et par ailleurs ils la volent, oui. ce qui n'est pas le cas dans cette pièce-là.
Pas tout à fait.
Mais alors du coup, pour filer un peu la métaphore alimentaire, comment faire en sorte que cette histoire ne manque pas de sel, alors que certains aspects un peu viandus, justement, ont disparu? Racontez-moi ça.
Moi, c'est ce que j'ai trouvé formidable dans la mise en scène de Cédric, c'est que justement, je pensais mon écriture assez sèche, finalement, par rapport à ce que vous dites, et puis il a réussi dans toute la partie, justement avec la sorcière, a réinsufflé beaucoup de magie, beaucoup de mystère, beaucoup de féerie là-dedans. On s'y est finalement retrouvé beaucoup dans le conte de fées, et ça, je vais laisser parler de ça parce que c'est son domaine.
Qui dit féerie, dit lutin. Il y a un lutin qui apparaît dans la pièce.
Voilà, qui est ce fameux marchand de sable. Je l'ai toujours vu avec des oreilles d'elfe. Et c'est la personne la plus bienveillante qui rassure et qui avertit du danger.
Alors, qui dit danger dit peur, qui dit peur dit courage. La pièce, j'ai l'impression, remet surtout au devant de la scène le rapport entre le frère et la sœur et le fait qu'il faut surmonter ses peurs. Donc Hansel va aider Gretel, qui le lui rendra bien par la suite en lui permettant de s'échapper. Absolument. C'était un point primordial pour vous?
Oui. Je pense que de parler de courage,
et de solidarité.
Et de solidarité, ce sont des choses importantes.
Alors ce qui est apparu aussi, c'est encore une fois à la lumière de cette mise en scène-là, c'est que finalement il y avait une autre métaphore qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'est celle de l'abondance. Comme le dit le fameux marchand de sable, quelques jours dans l'abondance vous rendra sans méfiance. Et tout d'un coup, j'ai vu une vraie métaphore de la société de consommation où la sorcière leur offre absolument tout ce qu'ils veulent pour mieux les piéger finalement à la fin.
Sapristi, il fallait y penser. La sorcière, c'est le capital.
Alors que le début du spectacle est vrai et on est plongé dans une vraie austérité. Il n'y a rien, il y a des assiettes vides avec des cuillères, des fourchettes, mais...
Et pas de pile dans la Nintendo.
Et non. Pas de pile dans la Nintendo. Pas de pile.
Oui, ça c'est la petite concession à la modernité. Mais est-ce qu'elle est d'ailleurs nécessaire? J'ai l'impression que la pièce reste très très moderne par rapport aux questions de famine, aux questions de manque.
On s'est aperçu, et juste avant que Cédric me parle de ça, il y avait effectivement un entrefilé dans un journal local qui disait que des parents avaient abandonné 3 enfants dans un restaurant parce qu'ils avaient plus de quoi les nourrir. On est en Suisse en 2010 à ce moment-là, et on s'est dit qu'effectivement il n'y avait absolument pas de datation de la pièce, que c'était tout à fait contemporain comme histoire.
Une dernière question, est-ce que vous aviez un tabou à la réécriture de cette pièce? Est-ce des choses qu'on ne peut pas raconter aux enfants dans une pièce comme celle-ci aujourd'hui? Alors vous ne montrez pas la mort, puisque vous l'avez évacuée.
Oui. Ah oui, puis moi le tabou c'est le fond crématoire, je ne voulais pas de ça, c'est clair que ça c'est mon tabou.
Là vous faites un néologisme, hein, chez les
oui,
Grimm,
absolument,
le four est
bien.
Un four à pain.
Oui, tout à fait. Non mais il n'empêche qu'on met une femme dans un four pour qu'elle meure. Voilà.
Oui, mais les serial killers, ça existe, ça a existé.
Absolument.
Le but de ces contes, en principe, mais c'était de mettre en garde les enfants, justement, de leur dire ça existe aussi.
Alors, je crois qu'on n'a pas évité la mise en garde non plus, effectivement. On les met en garde contre la séduction par la bouche et par la personne même, puisque la sorcière est en plus une femme forte, mais extrêmement séduisante. Je crois que ce message-là y est tout à fait, oui.
Et on les met en garde contre leurs parents aussi, Isabelle, puisque les parents sont pleins de duplicité, en l'occurrence. Cédric Laurier, Denis Lavalou, merci beaucoup. Donc, Hansel et Gretel, votre pièce au Petit Théâtre de Lausanne, c'est avec des comédiens, je le précise, j'ai pas du tout de marionnettes ou autre. Un beau plateau en bois, comme ça, avec une menuiserie. Ah, vous me tendez un billet, je le lis, et je les cite, Christiane Sordet, Pascal Gudel, Christian...
Robert Charru
et Cédric Simon, qui interprètent Le Garçon.
Et c'est Daniel Perrin qui a fait la musique et les comptines, les mélodies de notre spectacle.
Eh bien, tout est dit. Et je préciserai que vos héros partent dès janvier par Mons et par Vaud. Ils seront à Nuitenie, Villars-sur-Glâne le 15 janvier, à Yverdon le 18 janvier, à Vevey le 22, à Mérin les 24 et 25 au Forum, et enfin à Montet le 29 janvier. Ai-je oublié une étape?
Non.
De ce petit parcours où ils sèmeront des cailloux ou des miettes de pain.
On espère que le voyage va se poursuivre au Québec et dans les pays francophones.
Eh bien, fort bien.